Donc, parmi les 37 docteurs de l'Église actuelle, nous trouvons 4 femmes, dont nos 2 saintes, qui sont 2 saintes du Moyen-Âge, donc sainte Hildegarde de Bingen et sainte Catherine de Sienne. Donc, l'une est moniale bénédictine et l'autre laïque, tertiaire dominicaine. Donc, comme on l'a vu un petit peu déjà dans ce forum, c'est un temps où l'Église était menacée par les hérésies. On peut penser par exemple à l'hérésie cathare, mais aussi par la faiblesse de son clergé, que le goût des richesses avait beaucoup affaibli. Et c'est aussi un temps de schisme. Alors, pour rappel, le schisme d'Orient en 1054 avait eu lieu moins de 50 ans avant la naissance de sainte Hildegarde, et celui d'Occident, donc qui commencera en 1378, débutera avant la mort de sainte Catherine de Sienne. Donc, en ce temps qui était plutôt perturbé, eh bien, le Seigneur s'est plu à faire entendre sa voix par l'intermédiaire de ces 2 femmes. Alors, qu'est-ce qui caractérise leur enseignement? Eh bien, certainement, l'alliance de l'intelligence et du cœur. Jean-Paul II disait dans Mulieris Dignitatem, « Le Christ parle aux femmes des choses de Dieu et elles les comprennent dans une réceptivité authentique de l'esprit et du cœur, dans une démarche de foi. » Devant cette réponse tellement féminine, Jésus montre son estime et son admiration, comme dans le cas de la Cananéenne. Donc une alliance de l'intelligence et du cœur, mais aussi un charisme fortement prophétique. Nous allons voir que nos 2 saintes ont été favorisées de révélations divines. Et un charisme que leur identité de femme leur a fait exprimer dans une tonalité à la fois sponsale et maternelle. C'est donc la voix de l'épouse prenant la défense de son époux offensé, tout autant que celle de la mère inquiète et attentive aux enfants que Dieu leur confie qu'elles vont nous faire entendre. En suivant sainte Hildegarde et sainte Catherine de Sienne, nous aurons donc une belle illustration de ce qu'un charisme typiquement féminin peut apporter à l'Église dans son dialogue entre la foi et la raison. Alors je vais commencer par une petite présentation de chacune de ces 2 saintes. Qui sont sainte Hildegarde de Bingen et sainte Catherine de Sienne? Alors Hildegarde, née en 1098 à Bermersheim, donc près d'Alzey, donc c'est dans l'ouest de l'actuelle Allemagne, c'est la 10e enfant d'une famille de la noblesse franque. À l'âge de 8 ans, elle est vouée au Seigneur et on la confie à Jutta de Sponheim, pardon pour les noms, hein, je ne parle pas du tout allemand, qui est retirée dans le couvent bénédictin de Disibodenberg. Donc cette Jutta va donner à Hildegarde une éducation à la fois humaine et spirituelle. Par exemple, elle apprend à lire les psaumes, à écrire, à chanter, jouer de la sitar, mais elle étudie aussi la Bible, la règle de Saint Benoît, les pères de l'Église, les pères du désert, et semble-t-il aussi un peu de philosophie et de sciences naturelles, qui seront, avec les visions qui vont constituer l'essentiel de son enseignement, à la base de toute son œuvre. En 1115, Hildegarde prononce ses vœux, et à la mort de Jutta en 1136, c'est elle qui est choisie pour lui succéder, donc à la tête de la petite communauté de sœurs qui s'est formée petit à petit. On dit que son autorité suscite à la fois une sainte émulation dans la pratique du bien, au point que la mère et les filles rivalisaient de zèle dans l'estime et le service réciproque. Hildegarde a été favorisée de visions dès son enfance, mais elle a en 1141 une expérience mystique particulièrement forte, une rencontre avec la lumière vivante, comme elle aime à l'appeler. Et cette lumière lui ordonne « Dis et écris ce que tu vois et entends. Écris non pas en te fondant sur toi-même, ni en te fondant sur un autre être humain, mais en te fondant sur la volonté de celui qui sait, qui voit et qui dispose toutes choses dans les secrets de ses mystères. » Il s'agit, donc écrit c'est Régine Pernoud dans une biographie d'Hildegarde, « Il s'agit d'un ordre décisif dans lequel se trouve spécifié le rôle d'Hildegarde qui est assimilé aux prophètes de l'Ancien Testament, qui sont la bouche de Dieu, ne faisant que transmettre ce qu'ils reçoivent. » Et donc Hildegarde commence à écrire ses visions, et elle le fera dans 3 œuvres majeures. D'abord le Civias de Civias Domini, donc « Connais les voies du Seigneur », puis le livre des mérites de la vie, et enfin le livre des œuvres divines. Elle écrit aussi des traités de médecine, de sciences naturelles, des pièces musicales et de nombreuses lettres. En 1150, comme un nombre croissant de femmes frappe à la porte du monastère, Hildegarde fonde un second monastère à Bingen et elle en fondera un nouveau à Eibingen en 1165. De 1158 à 1170, elle entreprend 4 voyages missionnaires durant lesquels elle prêche en public pour parler de Dieu aux hommes et rétablir la paix et l'unité dans l'Église. Elle va mourir le 17 septembre 1179 au couvent de Bingen. Dans le décret qui la proclame docteur de l'Église, donc c'était en 2012, Benoît XVI écrit « La vie quotidienne de Sainte Hildegarde se révèle en harmonie avec son enseignement. Chez elle, s'exprime la recherche de la volonté de Dieu et la suite du Christ comme une constante mise en pratique des vertus, qu'elle cultive avec le plus grand soin et nourrit aux sources bibliques, liturgiques et patriques, ainsi qu'à la lumière de la règle de Saint Benoît. En elle rayonne de façon toute particulière l'exercice persévérant de l'obéissance, de la simplicité, de la charité et de l'hospitalité. Dans son adhésion totale à Dieu, elle s'est distinguée par ses dons humains singuliers, son intelligence vive, ainsi que par sa capacité à scruter les réalités divines. » Voilà donc pour un petit aperçu de la vie de Sainte Hildegarde, et je passe maintenant à Sainte Catherine de Sienne. Alors Catherine naît à Sienne en 1347, la 25e enfant de la famille Benincasar, donc les teinturiers de la ville. Grande famille. Alors très pieuse dès son enfance, Sainte Catherine obtient de devenir tertiaire dominicaine à l'âge de 15 ans, et elle vit en recluse dans une chambre de la maison familiale, en pratiquant la prière, la pénitence, la contemplation et les œuvres de charité. Et là, notre Seigneur en personne la visite, priant parfois l'office divin avec elle. À 20 ans, elle connaît elle aussi une expérience mystique profonde, des épousailles mystiques, à la suite desquelles notre Seigneur l'envoie en mission pour le bien des âmes et de l'Église. Et c'est vrai qu'ensuite, de partout, on fera appel à elle pour prêcher, mais aussi pour pacifier, réconcilier, et ce, dans presque toutes les affaires européennes de son temps. Sainte Catherine s'intéresse à tous, grands et petits, et beaucoup se pressent autour d'elle, la suivant partout dans ses missions. C'est la Bella Brigata, la petite troupe de ses disciples, constituée tant de religieux que de laïcs, de maîtres en théologie, de magistrats que de poètes, de gens érudits que de gens simples. Et Catherine n'hésitera pas à interpeller les grands de son temps, les rois comme les papes, pour leur faire connaître la volonté de Dieu sur eux, avec vigueur, certes, mais toujours avec beaucoup d'amour et de respect. Et c'est ainsi qu'elle va exhorter de façon énergique et efficace le pape Grégoire XI, qui à cette époque résidait en Avignon, à revenir à Rome. Voilà ce qu'écrit un de ses biographes. Son ascendant était irrésistible, un ascendant fait d'impérieuse volonté et d'affection exquise et surtout d'une sainteté rare. Pratiquement analphabète, Catherine est pourtant à l'origine d'une œuvre spirituelle d'une immense richesse. Elle se compose de 3 groupements, donc sa correspondance. On conserve de Sainte Catherine 378 lettres adressées aux personnes les plus diverses, hein, les papes, les cardinaux, des évêques, des rois, des reines, des religieux, des gens de toutes conditions. Donc la correspondance, un recueil de prières. On connaît 26 prières de Sainte Catherine qui ont été recueillies par ses secrétaires, parfois lors de ses extases. Et surtout, le plus connu, le dialogue de la divine providence ou livre de la divine doctrine, qui est vraiment un chef-d'œuvre de la littérature spirituelle. Alors celui-ci, il a été dicté entre 1377 et 1378 et il relate des conversations entre Dieu le Père et Sainte Catherine et cela constitue comme une synthèse de toute sa spiritualité, de toute sa doctrine. Catherine va mourir à Rome en 1380 alors que vient de commencer la sombre période du grand schisme. Elle a 33 ans et l'une de ses dernières paroles, « J'ai donné ma vie pour l'Église ». Le pape Paul VI l'a proclamé docteur de l'Église en 1970. Alors ces deux femmes, en effet, ont donné leur vie pour l'Église et à travers elles pour le Christ. qu'est-ce qui a fait qu'on leur a attribué le titre de docteur de l'Église ? Eh bien, l'excellence de leur doctrine et leur contribution particulière pour la croissance de l'Église. Alors, nous allons voir à présent plus précisément comment leur génie féminin se déploie dans leur enseignement, donc avec un caractère à la fois prophétique, sponsal et maternel. Donc, première partie, l'enseignement au caractère prophétique. Alors, c'est vrai qu'à l'image de la Vierge Marie, qui est trône de la sagesse, hein, en qui la sagesse divine a trouvé ses délices parmi les enfants des hommes, eh bien, Sainte Hildegarde et Sainte Catherine de Sienne ont été aussi des canaux de la sagesse divine, non seulement pour leur temps, mais aussi pour le nôtre. Mais nous l'avons vu, ce n'est pas de leur propre initiative qu'elles parlent, mais c'est poussé par Dieu qu'elles le font, à la manière des prophètes et de Jésus lui-même. On sait que Jésus a dit « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé ». Et ainsi, pour Sainte Catherine, ce qui frappe plus que tout dans la Sainte, écrit Paul VI, c'est la science infuse, c'est-à-dire l'assimilation brillante, profonde et enivrante de la vérité divine et des mystères de la foi contenus dans les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Une assimilation, poursuit-il, favorisée assurément par des dons naturels très particuliers et évidemment prodigieux, mais assimilation due à un charisme de sagesse du Saint-Esprit, un charisme mystique. Donc vous voyez, c'est les deux à la fois. Et ce charisme qu'ont possédé nos deux femmes, hein, ce charisme mystique, rehausse leur mission particulière de femme à être, comme le définissait Jean-Paul II, témoin des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur. À vous les femmes, nous disait-il à Lourdes, il revient d'être sentinelle de l'invisible. Et de fait, comme le fait remarquer Benoît XVI, les textes d'Hildegarde paraissent animés d'une authentique intelligence d'amour et expriment leur profondeur et fraîcheur dans la contemplation du mystère, de la très sainte Trinité, de l'incarnation, de l'Église, de l'humanité et de la nature qui, en tant qu'œuvre de Dieu, doit être estimée et respectée. Mais leurs exhortations ne sont pas seulement prophétiques. C'est aussi la voix de l'épouse et de la mère qui s'y exprime, et c'est notre dernière partie. L'amour de Dieu, voilà toute ma joie, s'exclame Sainte Hildegarde. Parvenir à la tour du désir brûlant, voilà mon seul désir. Mon Dieu, je veux faire ce que tu veux que je fasse. Ô mon Dieu, fais de moi ton instrument, que je résonne entre tes mains comme le tambourin de ton amour. Et c'est parce qu'elles ont tout donné au Christ, l'époux de leur âme, que Sainte Hildegarde et Sainte Catherine sont pour nous des signes et des rappels de l'alliance de Dieu avec les hommes. Dans l'histoire de l'Église, écrit Jean-Paul II, dès les premiers temps, il y avait aux côtés des hommes de nombreuses femmes pour qui la réponse de l'épouse à l'amour rédempteur de l'époux prenait toute sa force expressive. Elles sont un modèle pour tous les chrétiens, un modèle de sequela Christi, un exemple de la manière dont l'épouse, c'est-à-dire l'Église, doit répondre avec amour à l'amour de l'époux. Et ainsi, leur union au Christ leur fait comprendre avec acuité le désir passionné de Dieu de s'unir à chaque âme. D'où les élans d'une Sainte Catherine de Sienne dans sa prière, disant « Ô ineffable et très douce charité, qui ne s'enflammera à tant d'amour ? Toi, ô abîme de charité, il semble que tu deviens fou de tes créatures, comme si tu ne pouvais vivre sans elles, alors que tu es notre Dieu. Pourquoi donc es-tu si fou d'amour ? Pourquoi t'éprendre de ta créature, lui donner tes complaisances, prendre en elle tes délices ? Il est en toi comme une ivresse, ce désir de son salut. Elle te fuit et tu pars à sa recherche. Elle s'éloigne et toi, tu te rapproches. Pouvais-tu venir plus près d'elle qu'en te revêtant de son humanité ? Et on va trouver dans les dialogues entre nos deux saintes et Dieu, eh bien l'union dans la crainte et dans l'amour, les deux qui vont se fonder dans l'adoration. Ainsi, donc on a cette crainte, cet amour, voilà l'adoration, mais aussi une confiance inébranlable en Dieu. Et cette confiance faisait dire à Sainte Catherine « Je veux ». Vous voyez, ce fameux « Io voglio », ce « je veux » semble la caractériser. Voilà, elle osait même l'adresser à Dieu. Elle l'adresse à tous. Et dans sa prière, eh bien, il traduit son indestructible confiance et il va jusqu'à arracher les miracles au Tout-Puissant. Elle dit « Je veux » au bon Dieu et le bon Dieu s'exécute parce que dans son « Je veux », il y a beaucoup d'amour et de confiance. Quant à sainte Hildegarde, faisant parler la vertu de béatitude, elle écrit « Tu te portes préjudice à toi-même en ne faisant pas confiance à Dieu. Tu n'attends rien de Dieu, mais aussi ne reçois-tu donc rien de lui. Moi, j'appelle Dieu haut et fort, aussi j'accepte sa réponse. Je lui demande quelque chose, et dans sa bonté, il me l'accorde. Je le cherche, et donc je le trouve. » Voilà ce qu'écrit encore Jean-Paul II. L'amour sponsal comporte toujours une disposition unique à être reporté sur ceux qui se trouvent dans le champ de son action. Dans la virginité, cette aptitude ouvre à tous les hommes objets de l'amour du Christ époux. Et ceci se retrouve tout particulièrement dans la vie de sainte Hildegarde et de sainte Catherine de Sienne, dont les enseignements s'adressent à tous, petits et grands, avec le grand souci de leurs âmes. Alors, pour restaurer la société, toutes deux ont prêché avant tout une réforme intérieure des cœurs, bien plus qu'une réforme des structures. Mais cependant, elles n'ont pas hésité pour cela à se mêler des problèmes politiques de leur temps. Et on voit bien, une fois de plus, que la foi ne s'oppose pas à la raison, mais qu'elle la rend plus clairvoyante pour agir concrètement dans le domaine temporel. Et si elles aiment tous les hommes pour l'amour de Dieu, elles ont aussi le grand souci de faire connaître et aimer Jésus, leur époux, par tous. Nous apprenons de sainte Catherine la science la plus sublime, écrit Benoît XVI, connaître et aimer Jésus-Christ et son Église. Dans le dialogue de la divine providence, celle-ci, à travers une image singulière, décrit le Christ comme un pont lancé entre le ciel et la terre. Celui-ci est formé de trois marches, constituées par les pieds, par le côté et par la bouche de Jésus. En s'élevant grâce à ces marches, l'âme passe à travers les trois étapes de chaque voie de sanctification. Le détachement du péché, la pratique de la vertu et de l'amour, l'union douce et affectueuse avec Dieu. Et parce qu'elles sont comme l'Église épouse, et bien comme elles, sainte Hildegarde et sainte Catherine de Sienne sont également mater et magistra, mère et éducatrice. En parlant de sainte Catherine de Sienne dans une de ses audiences, Benoît XVI disait « Autour d'une personnalité aussi forte et authentique, commença à se constituer une véritable famille spirituelle. Beaucoup de gens se mirent à son service et considérèrent surtout comme un privilège d'être guidés spirituellement par Catherine. Ils l'appelaient « maman », car en tant que fils spirituel, il puisait en elle la nourriture de l'esprit. » Et sainte Catherine écrit effectivement à l'un de ses fils spirituels « Je vous dis et je vous appelle mon fils, dans la mesure où je vous mets au monde par des prières incessantes et mon désir auprès de Dieu, comme une mère met son fils au monde. » Je reviens à Jean-Paul II qui nous dit « La force morale de la femme, sa force spirituelle, rejoint la conscience du fait que Dieu lui confie l'homme, l'être humain, d'une manière spécifique. » Dans son enseignement, sainte Hildegarde a élaboré une anthropologie novatrice, faisant découvrir à l'homme qui il est. C'est un esprit incarné, fait pour l'accueil de l'autre dans la complémentarité entre l'homme et la femme. C'est un être au centre de la création visible voulue par Dieu et qui la récapitule en quelque sorte. Son génie est de proposer une conception intégrale de la personne. Elle écrit « Le corps est l'atelier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes. » Ces trois livres de vision nous introduisent dans une sagesse chrétienne. Le premier indique la voie, le second donne les moyens, que sont les vertus, et le troisième décrit le but à atteindre, une harmonie de l'univers renouvelée grâce à la transformation intérieure de l'homme. Et on peut dire que toute la richesse de l'Occident chrétien est ici synthétisée. Ajoutons qu'avec sa sensibilité féminine, sainte Hildegarde nous enseigne que tout ce qu'il y a de beau sur la terre a sa source dans le ciel. Et par exemple, pour elle, Le chant est comme un écho de la voix angélique que l'homme possédait avant la chute, par lequel maintenant il peut louer Dieu avec plus de perfection. Pour saint Hildegarde, l'homme a la responsabilité de symphoniser le monde dans l'harmonie. Et c'est dans cette recherche de l'harmonie entre l'homme et la nature, uniquement possible si l'homme se tourne vers Dieu, que saint Hildegarde entrevoit les causes et les remèdes des désordres introduits dans l'homme. Parce qu'elles aiment les enfants que Dieu leur a confiés, saint Hildegarde et sainte Catherine n'hésitent pas à se montrer sévères quand il le faut. Un des sommets de l'enseignement d'Hildegarde est l'invitation claire à la vie vertueuse, adressée précisément à ceux qui vivent dans un état consacré. Ainsi écrit-elle au clergé de Cologne, « Vos langues sont muettes dans la voix qui résonne de la trompette de Dieu. Toute la sagesse que vous avez scrutée dans les Écritures se trouve engloutie dans le puits de votre volonté propre. Vous devriez être jour et vous êtes nuit. » Et sainte Catherine s'est aussi mêlée à la douceur des conseils et des exhortations, l'énergie sévère des reproches. Ainsi écrit-elle par exemple au pape Urbain VI, « Le Christ béni se plaint de ce que l'Église n'est pas purifiée de ses vices et que votre sainteté n'y apporte pas tout le zèle possible. » Dans la tourmente de leur temps, l'une et l'autre sont des exemples frappants de service de l'Église dans la fidélité et dans l'amour. Et je conclus avec Benoît XVI. La théologie peut recevoir une contribution particulière des femmes car elles sont capables de parler de Dieu et des mystères de la foi à travers leur intelligence et leur sensibilité particulière. J'encourage donc toutes celles qui accomplissent ce service à l'accomplir avec un profond esprit ecclésial, en nourrissant leurs réflexions à la prière et en puisant à la grande richesse, encore en partie inexplorée, de la tradition mystique médiévale, surtout celle représentée par des modèles lumineux, comme le fut précisément Hildegarde de Bingen ou Catherine de Sienne.